Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant tous les samedis de 13h à 14h sur Campus Grenoble 90.8 et partout en streaming et en podcast sur le site de la radio. Alors aujourd'hui, on est très contente, on accueille trois invités exceptionnels, Yahya, Hassan et Rim, qui vont nous parler du Hirak, le soulèvement populaire qui a lieu en Algérie. Donc bonjour à vous trois.
Bonjour.
Alors au début, cette idée elle est venue du fait que ce mois-ci, on fête les 2 ans du début du soulèvement. Et depuis là, ces derniers jours, il y a une actualité vraiment historique qui est en train de se passer en Algérie. Donc bien sûr, on va beaucoup parler de ça également. Donc on va commencer direct parce que je pense que cette heure va nous sembler très très courte pour parler de ce sujet qui est vaste, il y a plein de choses à dire. Et on va commencer par des présentations. Est-ce que vous voulez un peu nous dire qui vous êtes et de quel collectif vous faites partie ?
Bonjour, donc je commence. Merci à Micro-ondes, merci à Radio Campus pour l'invitation. On est vraiment ravis d'être là. Donc moi, c'est Yahya, donc membre du collectif des Algériens de Grenoble. Voilà.
Bon, un grand merci à vous de nous avoir invités parce qu'on a besoin de ça. Les médias actuellement ne suivent pas ici au niveau de la diaspora, surtout à Grenoble. Et Radio Campus, merci à vous pour l'invitation. Merci pour Micro-ondes. Donc moi, je m'appelle Hassan du collectif algérien de Grenoble.
Bonjour à tous. Donc à mon tour, je remercie Radio Campus de nous avoir donné cette occasion. Merci encore une fois.
Alors, on va commencer par parler un peu du Hirak. Qu'est-ce que c'est ce mouvement ? Parce que je pense qu'il y a des auditeurs, auditrices qui peut-être ne connaissent pas bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a commencé ? Quelles en ont été les prémices et qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est toujours ?
Oui, alors le Hirak, donc c'est un mot arabe hein, qui veut dire mouvement. Et donc pour beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, c'est une révolution ce qui s'est passé le 16 février 2019. Les habitants de la ville de Kharata en Basse-Kabylie ont occupé l'espace public pour dénoncer la cinquième humiliation, c'est-à-dire que le régime militaire voulait imposer à nouveau un président grabataire qui était en fait qu'on voyait plus. Et du coup, les habitants de cette ville ont bradé l'interdit en disant que c'est pas possible, on ne peut pas accepter cette humiliation. Et ça, c'était le 16. Une semaine après, ces manifestations publiques sont généralisées dans toutes les wilayats, c'est-à-dire les villes en Algérie, y compris à Alger. Pourquoi Alger ? Parce qu'Alger, c'était la capitale, il y a une concentration du pouvoir politique là-bas, où les manifestations étaient interdites depuis 2001. Alors, en 2001, il y avait les événements de Kabylie, il y avait un peu plus de 104, tu me corriges Hassan, plus de 104 morts pendant les événements de Kabylie.
126 morts. 126 morts.
126 morts, merci. Et du coup, on a interdit les manifestations à Alger. Et depuis, tous les mardis, les étudiants occupaient l'espace public dans toutes les wilayas. Et les vendredis, toutes les citoyennes, et les citoyens occupaient cet espace public jusqu'à pratiquement à la trêve de mars 2020. Avec l'arrivée de la crise sanitaire, c'est les contestataires eux-mêmes qui ont pris la décision sage de dire que, bien évidemment, on arrête les manifestations. Donc, voilà. Par contre, historiquement, comme disait Hassan tout à l'heure, c'est Orantène, bien sûr. Et en fait, ces manifestations contre le cinquième mandat ne sont pas tombées du ciel comme ça. C'est-à-dire, il y avait un historique. Si je reprends très rapidement, l'historique des contestations en Algérie. Déjà, il y avait, juste après la prise de pouvoir de Bumbella, les années 60, il y avait une contestation de vieux partis d'opposition qui est le FFS. Et donc, par la suite, il y avait effectivement énormément de mouvements ouvriers. les années 70, et puis le mouvement berbère, le MCB, mouvement culturel berbère, en fait, en avril 80, et puis, bien évidemment, octobre 88, suite à une crise économique et sociale très profonde et importante, et par la suite, après 88, donc 90. Les 90, c'est l'arrêt du processus électoral, donc le pays est rentré dans une violence inouïe, donc plus de
250 000 morts.
Ouais, entre 200 et 250 voilà. 000 morts. Et puis 2001, c'était les événements du Kabylie. Donc l'Algérie, elle n'a pas, en fait, selon les spécialistes, elle n'a pas connu, en fait, un jour sur les 10 dernières années sans contestation. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair.
Mais
voilà.
Merci. Voilà. Hassan, est-ce que tu voulais compléter?
Oui, oui. Donc je pense que Yahya, il a parlé un peu de tout. Et donc, il y a la naissance là du Hira, et en plus, c'est quelque chose de positif dans la vie d'un Algérien. Parce qu'avant, l'État algérien a divisé toutes les revendications qu'il a, tous les mouvements là qui sont de 62, 80, 88, 90. L'État, il est arrivé à diviser ce peuple. Kabyle, Chaoui, Arabe, voilà, etc. Musulmans, chrétiens, donc ils ont tout divisé, donc voilà, on n'arrive pas à s'unir. Et ce mouvement-là de février, qui a commencé le 16 février, et puis s'est généralisé le 22 février, c'est un rassembleur. L'unité nationale, elle commence à se... Voilà, ils ont compris qu'aujourd'hui, il y a trop de magouilles, trop de la division, ils ont compris cette unité. Il n'y a qu'une seule Algérie. Et aujourd'hui, ce qui est bien, ces Algériens cherchent même leur identité, leur culture. Donc aujourd'hui, on creuse et on cherche c'est quoi cette algérianité, c'est quoi. Après, il y a l'unité nationale. Donc ce mouvement a uni tout le peuple algérien. Et c'est positif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le pouvoir subit. Le pouvoir, il est en train de tomber petit à petit. Voilà.
Et du coup, on dirait un peu que c'est un mouvement spontané qui naît comme ça avec une force énorme. Et j'imagine que c'est aussi le cas, mais qu'après, il a dû se structurer à des endroits pour pouvoir aussi durer dans le temps et continuer à être aussi rassembleur et aussi fort, quoi.
Spontané, je ne pense pas. C'est spontané, ça ne vient pas spontané. C'est une souffrance depuis 62. Mmh. Quand un État a son indépendance pour vivre librement, avec sa démocratie, son algérianité, sa liberté, et qu'on ne la trouve pas depuis 62, chaque année qui passe après 62, c'est la misère noire, c'est la dictature, après on est tombé dans l'islamisme, et ce peuple-là, il en a marre, il y a du sang, jusqu'à quand? Et aujourd'hui, ce mouvement, je pense qu'il est né de tout ça. Mmh. Et il y a une révolte générale aujourd'hui en Algérie, et je pense que c'est positif pour l'avenir de l'Algérie. Mais après, il faut qu'on s'entende, nous, en tant qu'Algériens, et qu'on souhaite bien aussi l'opinion internationale, l'Occident, dire son point de vue, soutenir ce peuple qui a donné une leçon de vie, une leçon d'unité, sans casse, sans blessure, sans faire de la casse dans leurs revendications. C'est des milliers d'Algériens qui sont dans les rues sur tout le territoire national et il n'y a pas de casse. Donc je pense qu'il faut que l'opinion internationale doit agir à soutenir ce peuple. On ne demande qu'un soutien moral.
Il y a cette idée de vraiment tous œuvrer ensemble, un peu dans le même sens, dans la même direction. C'est quoi les espaces de discussion? Est-ce que c'est dans les moments de rassemblement? Est-ce qu'il y a d'autres moments en dehors? Est-ce qu'il y a des collectifs? Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle? Yahya, si tu veux...
Oui, et en fait, je voulais juste rebondir sur un élément que Hassan a cité, effectivement, sur l'aspect spontané de la révolution du sourire, ou de ce moment qui est le Hirak. Et en fait, dans l'imaginaire collectif des Algériens, il y a cet héritage aussi très très important, de la guerre de libération. Et en fait, moi, j'ai participé à plusieurs manifestations en Algérie avant la pandémie. Et en fait, le peuple il s'est approprié les figures historiques comme Ali Lapointe, comme Aban Ramadan, comme c'était vraiment des artisans de la révolution algérienne. Mais pas que. Il s'est approprié aussi, du point de vue anthropologique, sa propre identité. Et en fait, par exemple, le fait que le peuple a compris qu'il n'y a aucune contradiction entre le drapeau amazigh, et le drapeau algérien. C'est-à-dire le drapeau algérien, d'ailleurs, qui est conçu par une Française, hein, par Émilie Busqui, qui est la femme de Msalil Hadj. Et le peuple, c'est-à-dire le pouvoir, a souvent effectivement joué sur, comme disait Hassan, sur les divisions. Et donc les berbérophones contre les arabophones, et puis les arabophones contre les francophones, et toutes ces dichotomies, il a joué là-dessus. Et là, le peuple a donné une leçon au pouvoir en disant que ce n'est pas possible. Alors, l'élément historique de ce Hirak, c'est que c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est que toutes les wilayats, c'est-à-dire tous les départements, toutes les villes, sont révoltées au même moment. Alors qu'avant, c'était, je dirais pas sporadique, mais c'était, par exemple, c'était longtemps la Kabylie, par exemple, en 80. Et puis, il y avait 88 qui a touché aussi plusieurs villes, mais pas la totale. Là, pour moi, c'est une insurrection citoyenne qui va durer dans le temps, parce qu'elle concerne toutes les Algériennes et tous les Algériens, de sud au nord, de l'est à l'ouest. Mmh. Et hier, quand on a vu, on va revenir peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire la libération des détenus, on va revenir là-dessus. Pour moi, c'est pas la grâce présidentielle, c'est la pression de la rue, encore une fois, qui a poussé le président et donc le pouvoir qui est derrière de libérer les. Et ce n'est pas des mesures d'apaisement. D'abord, c'est un acte de réparation d'une injustice. Parce que la plupart, on en parlera tout à l'heure, on les a arrêtés injustement, avec des chefs d'inculpation hallucinants. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, du coup.
Pas tout à fait, mais oui. Écoute, c'était intéressant. Oui. Et ça, on parlait un peu...
Va répondre, alors.
Pas tout de suite. J'interviendrai. On se met à l'aise tranquillement. Quand ça sera... Et ça, on parlait un peu de la situation, du coup, des luttes qui, géographiquement, se retrouvent un peu partout, ce qui est assez unique. Comment ça se passe au niveau des plus petites villes, des zones moins peuplées? Est-ce que là, il y a aussi une mobilisation?
Oui, juste tout à l'heure, quand j'ai cité plusieurs luttes, par exemple historiques, mais j'en ai oublié une parce qu'il y en avait vraiment plusieurs. C'était celle, par exemple, de Ain Salah. Mm-hmm. C'est une contestation menée essentiellement par des femmes contre, effectivement, une décision qui est l'exploitation de gaz de schiste, et avec des conséquences écologiques désastreuses. Et ce mouvement de femmes, et en fait contestataires, a fait reculer le pouvoir sur cette décision. C'était sous Bouteflika. Il y en avait une autre, c'est celle des chômeurs de Sud. C'est pour dire, pour rejoindre un peu ce que disait Hassan tout à l'heure, c'est-à-dire que cet héritage révolutionnaire que nous avons tous, nous, Algériennes et Algériens, même si c'est compliqué des fois hein, d'être d'accord, hein, vous avez pris des risques de nous inviter aujourd'hui.
Ça se construit.
Vous avez pris des risques, là, je rigole.
Ok.
Et du coup, par contre, il y a cet héritage révolutionnaire qui est ancré en nous. Et donc, c'est difficile, mais on essaie effectivement de. Ce que le Hirak a apporté, c'est que maintenant, on finit une lecture en positif et pas une lecture en négatif des choses. Fait. Voilà.
Moi, je vais vous répondre par rapport à la question là que vous n'avez pas compris. Je pense qu'Yahya ne vous a pas donné un peu les trucs. Ouais. Moi, je vais vous dire, tous les mouvements en Algérie qui sont nés de la population, c'est la discussion. Avant, il n'y a pas tous ces médias, il n'y a pas les réseaux sociaux. Donc, on discutait entre nous, dans les cafés, dans les bars. Et puis, c'est passé beaucoup plus dans les stades de foot. Toutes les révolutions, oui. Ça partait dans les stades de foot. Mmh. Le mouvement 80, tout. C'est parti dans les stades de foot. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est notre immédiat, c'est notre passe-mot. Il y a toujours, tout est filmé, tout est publié dans les réseaux sociaux. Chacun de nous a créé sa page, discute. Par exemple, il y a une manif le vendredi, le soir même, il y a une discussion. Les gens, ils se retrouvent, ils discutent. Durant les manifs, il y a des débats. On n'a jamais vu ça en Algérie. On ne connaît pas ce que ça veut dire la démocratie. On ne discute pas entre nous. On ne partage pas tout ce qui est... Et avec ce mouvement, dès qu'il y a... À la fin, les derniers mois... Les gens, ils manifestent, ils font des rassemblements, des tables rondes, des discussions, des agora, donc chacun. Donc, il y a une discussion et ça parle. Et on voit la femme algérienne qui revient sur la scène aussi, qui parle, qui prend son combat, qui a son micro, qui dit des choses. Voilà, donc c'est beaucoup plus... C'est comme ça que ça fonctionne pour un peu sortir... passer le message du Hirak.
D'accord. En parlant des stades, justement, bah, juste pour un titre d'information, les chansons de notre révolution actuelle, la plupart, elles sont parties des tribunes de stades, notamment celle de Mouradia.
Oui.
Qu'on pourrait peut-être éventuellement
passer.
Tout
à fait. Et ben, on peut écouter cette première chanson, la Casa del Mouradia, voilà. Et après,
on expliquera pourquoi
vous nous expliquerez pourquoi ce choix. Super. Sur Radio Campus Grenoble 90.8, on écoute l'émission Micro-ondes avec nos trois invités qui nous parlent de l'Algérie, du Hirak et de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le morceau que vous avez choisi, qu'on vient d'écouter ?
Oui, donc la Casa de Mouradia, c'est une chanson inventée par les jeunes au niveau des stades. Alger, quoi, des supporters en fait, des clubs de foot, l'USMA, MCA, quoi. Mm-hmm. Et bon, je connais pas trop, moi je suis pas d'Alger,
plus,
donc
hein.
les derby, les compatriotes, bon, m'excusez, est-ce que c'est l'USMA ou MCA, je sais pas.
C'est l'USMA.
Ouais, c'est l'USMA, voilà. Donc oulala, parce que là, nous, on peut prendre la distance. Par contre, Alger, c'est sérieux. Hein, l'USMA, MCA, je sais. Voilà, moi, je suis pour plutôt la GSK, voilà. Et le mob de Bjaïa, quand même, je rigole. Et du coup, en fait, par contre, le texte est excellent parce que les jeunes décrivaient vraiment la misère qu'ils ont vécue pendant les 5 mandats.
De Bouteflika.
De Bouteflika. Voilà. À chaque fois, il décrivait en fait cette misère-là, comment à chaque fois le pouvoir a réussi à ruser en fait pour nous maintenir en fait dans une situation sociale lamentable et puis pas de liberté d'expression et puis beaucoup de frustration. Voilà. C'est mon interprétation. Hein, voilà.
Et qu'est-ce que c'est la Casa del Mouradia?
Ben, la Casa del Mouradia, c'est un peu comme l'Élysée ici, quoi. Donc c'est la présidence en fait. Voilà. Voilà.
D'accord, bah merci beaucoup. Et du coup, alors, on a un peu vu comment ce mouvement est né et comment il a touché beaucoup d'endroits en Algérie et beaucoup, beaucoup de monde aussi, parce que c'était quand même des milliers, milliers, centaines de milliers de personnes dans la rue, des millions. Et c'était quoi les revendications? Comment elles sont construites au fur et à mesure? Est-ce qu'elles ont changé en cours de mouvement, donc dans ces deux dernières années? Est-ce qu'on peut un peu voir ça?
Oui, moi, je peux vous répondre un petit peu par rapport à ça. Ce qui est formidable dans cette Algérie, parce qu'on a passé des moments très durs, très difficiles. Le peuple a subi pendant des années, depuis 62 à ce jour. Et ce 22 février, la création, la naissance du Hirak, du mouvement citoyen, un mouvement pacifique... quand on voit tous les... Moi aussi, qui étais ici, donc moi j'ai quitté l'Algérie en 2001, mais quand je voyais tout ça, ce qui se passait dans mon pays, avec des slogans formidables, parce qu'on même on a passé la décennie noire, il y a l'islamisme qui a détruit un peu l'Algérie, il y a les militaires, et sur les slogans, on voit égalité des droits hommes et femmes, on voit la liberté de la justice, on voit la liberté de la presse, on voit... la séparation de la religion et de l'État. Avant, on ne peut pas dire tout ça. On n'arrive pas à s'exprimer, on ne peut pas dire ces slogans. Réforme de l'éducation, la liberté de la presse, déjà dit, respect de tous les cultes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie, ben, aujourd'hui, malheureusement, ils veulent nous taxer d'un pays islamique ou musulman. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées. Tout ça. Et ce peuple-là, ils veulent aujourd'hui vivre dans cette vie-là normale de liberté. Chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Et surtout, le respect de la femme qui n'existait pas. Et que quand on regarde la révolution algérienne, c'est grâce à la femme. Quand on regarde l'histoire de l'Algérie, depuis la création de l'Algérie, au temps des Berbères, au temps on n'a que des grandes personnalités femmes. Et là, même dans le Hirak, on voit la femme, elle est toujours devant. Donc voilà les revendications et les slogans de cette révolution. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres slogans, mais il y en a plein de slogans. Donc.
Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Hassan. C'est que quand le début de ces manifestations, en fait, de 22 février, qui sont généralisées avec un rituel tous les mardis pour les étudiants, les vendredis pour toutes les Algériens et tous les Algériens. Et en fait, ce qui est intéressant, il y avait des capitales de Hirak à un moment donné, c'était pas trop loin de Baskabylie aussi, c'était Bourjbar et Rishpa. Par exemple, après c'était Alger. Mais ce qui a fait réellement peur au pouvoir, c'était la présence des femmes et des enfants dans cette manifestation. Un copain, il m'a raconté une anecdote à Tizi Ouzou, donc en Kabylie. Et il disait qu'il y avait, un vendredi, il y avait des manifestations. Il y avait une maman qui avait sa fille de 3-4 ans sur elle, quoi. Donc elle manifestait à un moment donné. Elle était fatiguée, hein, un enfant. Et du coup, elle passait son enfant à des inconnus pour lui donner un coup de main tout en continuant à manifester. On a vu des choses incroyables. D'abord, le côté pacifique, pour une société qui est rongée par la violence. On sortait juste d'une décennie du son. Moi, j'aime pas l'appeler la décennie noire, si je paraphrase.
Le son, c'est quand même beaucoup plus souple que le son. Plus souple que le son.
C'est Nabil Fares qui disait, immense écrivain algérien, qui disait ce qu'elle appelle la décennie noire, c'est qu'ils veulent pas voir, quoi. Donc, c'est passé. Mais ça, c'est un autre débat.
Ouais, c'est
et pour revenir aux revendications. Et tous les Algériens sont d'accord pour un état de droit, c'est-à-dire bâtir un état de droit. C'est-à-dire que, je vais vous donner quelques chiffres, hein, parce que la spécificité de Hirak actuellement, ça va être un Hirak social. Dans le sens, les revendications vont plutôt axer sur un logement décent, parce qu'on oublie la justice sociale, et en fait, toute cette révolte qui anime aujourd'hui beaucoup d'Algériennes et beaucoup d'Algériens vient de la Hogra, d'un système qui s'est approprié énormément de richesses. Il y a eu du trafic de cocaïne, par exemple, des hauts cadres d'État sont impliqués. Et je rappelle
et
que
le fils du président est impliqué,
président,
qui a été acquitté juste après son investiture.
Tout à fait. Il y a un premier ministre en exercice et se retrouve en prison aujourd'hui. Mais je voulais juste préciser une chose. Ça, c'est de l'ordre de la lutte clanique, c'est-à-dire le fait qu'on a arrêté énormément de corrompus. Et en fait, ce n'était pas pour servir la démocratie ou rendre justice. Et en fait, le pouvoir, depuis pratiquement le 16 février, le 22 février 2019, il a verrouillé le champ médiatique. Et maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie. Et même aujourd'hui, en fait, avec la libération des détenus, et c'est l'énième ruse du système. C'est qu'il ne voulait pas, parce qu'en deux ans, Tebboune, par exemple, président, le chef d'État Tebboune, il est là depuis pratiquement le 12 décembre, mais il n'y avait aucune ouverture, c'est-à-dire il n'y avait aucune volonté réellement de dialogue avec les forces vives du Hirak, et de bâtir un état de droit. Pour revenir aux revendications, c'est-à-dire des citoyens, cet état de droit, en fait, après, bien sûr, un peuple qui ne s'est pas, en fait, retrouvé, qui ne s'est pas parlé pendant pratiquement une soixantaine d'années, c'est-à-dire juste après l'indépendance de l'Algérie, c'est difficile, en fait. D'abord, ce que Hirak a apporté, Hassan, il l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il nous a permis, nous, les Algériens, de discuter entre nous, parce qu'on ne se connaissait pas. Vous savez que, par exemple, moi, je suis né en Algérie, j'ai fait mes études en Kabylie, en fait, le pouvoir, à l'époque, il faisait exprès de ne pas mélanger les populations.
Tout à fait.
Pour qu'ils se connaissent. C'est-à-dire que, et du coup, il renforçait les préjugés, ce que je disais tout à l'heure, des francophones sur les arabophones, des Kabyles sur les... Et aujourd'hui, en fait, les Algériens se sont retrouvés, donc déjà, on commençait à se parler, à se connaître, pour construire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, pour transformer ce rouget, si je reprends une phrase d'un opposé algérien, un projet. Mmh. Et c'est ça, en fait. Après, bien évidemment, on ne va pas, comme disait le dicton de Chino, on ne va pas cacher le soleil avec un tamis. Et tout simplement, il y a des difficultés. Et on va revenir tout à l'heure, si tu nous donnes la parole là-dessus, sur la construction, notamment ici dans l'immigration, et toutes les divergences qu'a traversé aussi le Hirak en Algérie. Voilà.
Mais on peut tout à fait en parler maintenant aussi. Hein.
Rim, tu voulais ajouter quelque chose. Je dois synthétiser de la réponse de mes confrères. C'est que ça a commencé par la volonté de vouloir arrêter un cinquième mandat qu'on trouvait humiliant. Et ça a évolué vers quelque chose de beaucoup plus important, l'établissement d'un état de droit. Et ça reflète la maturité du peuple algérien, en fait, en termes de politique et de tout ça. Voilà, en gros, en deux mots, quelles sont nos revendications? On veut que tout ce système disparaisse et on veut faire une période de transition où on va permettre une régénération du tissu politique, création de nouveaux partis avec de nouvelles idées et faire des élections transparentes et recommencer. Voilà, en gros.
Et ça fait partie des questions que je me posais parce que j'ai l'impression, si j'ai bien compris là, ce qui se passe... C'est un nouveau projet de société que la population algérienne a envie de créer et peut élaborer en se rencontrant, en discutant ensemble et à bouder les élections, hein, puisqu'il y avait quand même un taux de participation très très faible. Et du coup, avec pour moi cette idée de, en fait, le changement, on le fait ensemble, on le fait dans la rue. Mais est-ce toi, tu parles du coup, Rim, plutôt de aussi que ça peut se transformer en quelque chose de basé sur une politique plus de partis et des élections
pas pour
et tout
l'instant.
Ça.
Pour l'instant, on veut réellement, on est soudés pour faire disparaître ce régime déjà. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il faut aussi commencer à réfléchir sur une structuration.
Tout à fait.
Cette révolte, il faut lui donner des instruments pour qu'on puisse la mettre sur place. Donc, forcément, à un moment donné, il va falloir qu'on passe par de la politique. C'est comme ça qu'on peut bâtir un pays. Par contre, on veut emmener le régime à faciliter justement d'abord une phase de transition où on va se préparer en tant que peuple pour justement nous donner les moyens pour faire quelque chose de plus solide pour plus tard.
Et là, à titre personnel, hein, moi personnellement, toutes les mesurettes là, que le pouvoir est en train de prendre, notamment, je dis mesurettes, parce que même la dissolution du Parlement et la libération des détenus, et je l'ai dit tout à l'heure, je suis super content pour eux, c'est qu'à un moment donné, le pouvoir, il veut tout réduire à une forme de chantage et de négociation que pour les détenus. Alors que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un acte de réparation d'une injustice. Donc, ça, c'est pareil. Donc, nous, en tous les cas, pour dire qu'à quel point, en fait, ce pouvoir est quand même rusé, je vais reprendre deux éléments. Le référendum pour la Constitution. De 1er novembre. D'abord, la première rue, c'est qu'elle s'approprie une date historique. C'est que 1er novembre 54. C'est le déclenchement de la guerre de libération en Algérie. Où toujours en quête de cette légitimité, alors que la vraie histoire, c'est-à-dire les acteurs de cette histoire-là, le peuple a pu, a pu se les approprier dans les manifestations publiques. Donc, qu'est-ce qu'il fait, M. Tebboune? Donc, il organise un référendum avec, pour une constitution, oui ou non. Il y avait un taux d'abstention, je pense que le taux de participation, il était à peine... dans certains wilayas, c'était zéro. Par contre, il s'est donné toutes les prérogatives d'un super président. C'est l'hyper-présidentialisme, encore pire que ce Bouteflika.
Exactement, c'est
et
ça,
c'est-à-dire que, je vais citer deux, trois exemples. Vas-y. Et c'est pour cela qu'on doit clarifier les choses là-dessus. C'est-à-dire que c'est pour cela que, en fait, l'arrière-pensée politique qui est derrière est toujours la même. Et toujours la même, c'est celle d'un système qui ne voulait plus lâcher le pouvoir. La nouvelle constitution, en fait, par exemple, si on parle de pouvoir réglementaire, et le président enlève toutes les prérogatives pour le chef de gouvernement sur des décrets ministériels, par exemple. Le conseil supérieur de la magistrature, c'est lui, le président du conseil supérieur de la magistrature. Alors, comme disait Rim tout à l'heure, c'est que l'une des revendications, c'était l'indépendance de la justice. C'est-à-dire ces détenus, ces politiques-là, avec des chefs d'inculpation complètement imaginaires, on a arrêté des gens innocents, et après, ils sont ridicules. Par un décret présidentiel, grâce présidentielle, on va les faire sortir. Et sachant que, je cite juste un exemple, on ne peut pas l'oublier aujourd'hui, sans monopoliser la parole, c'est l'étudiant, le jeune étudiant, Walid Nerpech. Et un jeune étudiant, au départ, on l'a condamné à perpétuité. En fait,
c'est
ce jeune homme,
c'est du non-sens, c'est impressionnant.
À perpétuité, complicité avec l'étranger, espionnage. Et ce jeune homme, en fait, il a été violé dans les geôles du pouvoir. Et c'est pour la première fois, en fait, cette pratique de torture existait depuis les années 60. Et en fait, il a tout dit devant le procureur et devant ses avocats, ce qu'il a subi réellement. Et ça démontre, en fait, ça démontre...
La détermination aussi des jeunes, je trouve. C'est très courageux
ce qu'il a fait. Courageux.
Et la détermination de ces jeunes-là à vouloir réellement changer, carrément.
Et je vais les citer
Parce qu'une telle déclaration n'est pas facile à vivre, hein, que ce soit ici ou ailleurs, ou encore pire, en Algérie.
Oui.
Moi, je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait.
Mais, tout à fait. Et en fait, c'est Tahar Khelfoun qui a écrit, donc un universitaire algérien qui est dans le Hera, qui a écrit un papier où il racontait, à un moment donné, Mohamed Harbi, qui est un historien émérite. Et d'ailleurs, dommage, on ne l'a pas associé sur le rapport Stora, mais ça c'est un autre débat.
C'est un autre débat aussi.
Et du coup, il disait qu'à un moment donné, Mohamed Harbi, il a dit à Boumdien, des années 60, il lui a dit, en 64, il lui a dit, non, la torture, il faut arrêter, là, c'est pas possible. Ouais. Et la réponse de Boumdien, c'était, trouve-moi un autre moyen pour faire parler les gens, on arrêtera la torture. Ce que je voulais dire par là, c'est que la torture a tout le temps existé. Les années 80, on a torturé des gens. 88, on a torturé des gens. 2001, on a torturé des gens. Et en fait, c'est devenu une pratique héritée d'ailleurs de la colonisation française. Et c'est assez intéressant pour revenir sur la torture, c'est-à-dire à Antar, là, vers Alger, ça s'appelle Antar, ce lieu. En fait, il y a des parents qui ont été torturés pendant la guerre de libération et leurs enfants ont été torturés par le pouvoir qui a pris par les acteurs qui ont pris le pouvoir après 62. Tu vois un peu cette complexité de... J'ai l'impression que j'ai perdu le fil, non?
Ça va? Non,
c'est bon.
Bah, ouais, je voulais juste qu'on parle un peu de ce point qui est la torture.
Ouais. Et ben justement, on peut peut-être parler de la répression plus largement parce que du coup, il y avait beaucoup de gens dans les rues. Ouais. Il y avait beaucoup d'expressions sur les réseaux sociaux. Mmh. Du coup, bon, on sait qu'il y a eu de la répression. Récemment encore, il y a eu des arrestations aussi de personnes qui sont un peu des figures du mouvement. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur cette répression? Comment elle se jouait et quel impact elle a pu avoir sur le mouvement?
Au début du mouvement, ils n'arrivent pas à arrêter les gens. Ils prenaient comme ça quelques personnes dans la foule. Et malheureusement, après le Covid, pour dire que ce pouvoir est lâche. Vraiment, ils n'ont rien dans la tête. Et après le Covid, ils sont venus directement récupérer les gens. Ils venaient dans les maisons, dans les appartements. Donc, ils ont rempli les prisons. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils montaient des dossiers, même. Des kidnappings. Ils ont monté des dossiers vraiment accablants. Quand vous dites à un simple étudiant que vous touchez le moral des troupes militaires, mais c'est grave, c'est une insulte à l'armée algérienne, c'est une insulte à la défense algérienne. Une simple personne qui parle sur un téléphone, qui dénonce les choses, il touche le mental des militaires. Qu'est-ce qui reste? Voilà, donc voilà, ils ont profité de ce Covid, même le bon Dieu, là moi je ne crois pas au bon Dieu, mais voilà, il est avec eux, malheureusement. Voilà.
Mais non, on peut lire les choses d'une autre façon, on peut se dire que la période du Covid va servir de réflexion, de... Moi je pense, j'y crois.
La preuve, ça n'a pas marché parce que Akharata le sait.
Oui, voilà, ils ont fait un grand
mouvement. Il a redémarré là.
Tout à
un
fait.
Nouveau.
Il y a eu pas mal sur Facebook, pas mal de conférences, pas mal de débats. Ça se structure. D'une façon ou d'une autre.
On en parlera tout à l'heure, mais il y a plusieurs tentatives de structuration. Et en fait, moi, je pense qu'il s'est opéré quelque chose de révolutionnaire dans la tête des Algériens.
C'est irréversible, en fait. Ouais. C'est ce qu'il essaie de dire, peut-être. Ce n'est pas un phénomène transitoire. C'est quelque chose réellement de... Pour moi, c'est irréversible.
Exactement.
C'est-à-dire on ne peut plus reculer.
Tout à fait. Les gens, ils ne veulent plus revenir à la case de départ.
C'est
après, c'est compliqué, la structuration. Bien sûr que c'est compliqué parce que d'abord... pourquoi c'est difficile à mon sens? D'abord, ce pouvoir avec des présidents comme ça, grabataires comme Tebboune et tout, et Bouteflika, parce qu'il était en Allemagne pendant 3 mois pour se soigner, alors que des Algériens, ils crèvent là-bas. Hein, ils ont pas, y a des femmes qui accouchent par terre en Algérie. Hein, ils ont construit l'une des plus grandes mosquées d'Afrique.
Il y
a plus de 18 000 mosquées à vérifier, mais il y a un chiffre incroyable.
Il y a 18 500 mosquées en Algérie.
Oui.
Voilà.
Oui,
et les universités, on a 106.
C'est bien. Et les hôpitaux, ils sont. Voilà. Donc, ces choix, comme c'est idéologique, eux, ils se soignent à l'étranger. C'est honteux. C'est honteux. Et pour revenir. En fait, j'ai perdu le fil. C'était pour revenir sur.
On parlait de la détermination des jeunes.
Voilà, c'est-à-dire la détermination des. En tout cas, des hiérarchies. Ouais. C'est-à-dire.
Et la structuration.
Les difficultés. Merci. Merci, Erim, parce que je voulais dire ça. Merci. C'était d'abord le soutien des pays impérialistes. Macron, il ne faut pas oublier qu'il a dit très clairement : je ferai tout pour Edith Boone. Aucun mot. Sur les journalistes détenus en Algérie arbitrairement, aucun mot sur les détenus d'opinion. Ouais. Et en fait, il dit que je ferai tout pour aider.
Pire, moi, ce que je trouve quand même surprenant, enfin décevant en tout cas, c'est que même les médias français suivent. C'est-à-dire, on peut entendre qu'un chef politique puisse avoir une certaine façon de voir, il n'y a pas de souci. Par contre, pourquoi est-ce que tous les médias français aussi ne veulent pas mettre de la lumière sur le mouvement? C'est impressionnant quand même. Donc, ils suivent carrément. On dirait qu'il y a des directives, il y a des trucs d'accorder. Quoi. Et ça me déçoit par contre.
Ouais. Et il y a des accointances en tous les cas entre les patrons, les médias et le pouvoir politique. Ouais. Ça, on le sait très bien. Ah. Oui, vas-y.
Après, moi, oui, c'est vrai que les médias, le politique français, ils sont pour ce pouvoir. Là, on le sait tous, il n'y a personne qui va nier ça, qui va dire que c'est faux. Mais ce qui est bien, ce qu'on voit, nous, qui sommes dans les rassemblements, c'est dans ça. Les conférences, on a quand même le citoyen, le vrai citoyen français, que je remercie aujourd'hui, qui sont toujours avec nous, qui nous soutiennent. Des associations, des mouvements, la Ligue des droits de l'homme, l'Amnesty International. Ces gens-là, ils viennent, ils nous soutiennent. Ouais. Et ça, c'est formidable.
Et le collectif des Algériens de Grenoble arrive à faire ses activités, ses conférences, etc., grâce à ces associations françaises et ce soutien civil des Français.
Ouais. Malgré tout, hein, parce qu'on est toujours... On est toujours taxé de mains étrangères, voilà, le pouvoir algérien joue sur ça. Dès qu'on travaille avec une association française, dès qu'on travaille avec des Français ou Allemands ou Canadiens, parce qu'on a des collectifs internationaux, là où il y a les Algériens, il y a un collectif. Ça aussi, c'est une nouveauté pour le peuple algérien. Avant, la diaspora, c'est la France. Aujourd'hui, il est partout la diaspora algérienne et il y a des collectifs, partout, il y a des coordinations internationales. Et ça aussi, ça joue sur le pouvoir algérien.
Donc, si je reprends, je rebondis sur ce que disait Yahya, en termes de structuration, c'est un peu difficile déjà parce qu'en tant que peuple, on ne se connaissait pas, on est en train de se connaître comme il l'avait déjà souligné. Et deuxièmement, il y a la contre-révolution. Donc le pouvoir, il est là avec toute sa puissance, tous ses mouvements pour justement détruire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on risque de construire ensemble. Donc notamment l'histoire des divisions, Kabylie, l'histoire de la main étrangère. Dès qu'on a un soutien des sociétés civiles, on travaille pas avec des gouvernements ni avec des politiques. On travaille avec la société civile des différents pays étrangers. Donc on est un peu combattu à cause de ça, en fait, un peu.
Très bien, on reprendra la discussion peut-être après écouter un petit morceau de musique pour respirer un peu.
Très bien.
Est-ce que tu peux nous parler du morceau que tu as choisi ?
Dardari. C'est une chanson qui a été montée, enfin en tout cas, je l'ai vue récemment. Elle retrace l'histoire de l'Algérie moderne, enfin contemporaine, depuis l'indépendance. Donc, il parle d'un père de famille qui achète un morceau de terrain sans mur et qu'il décide et qui a l'intention de construire. Et puis après, il parle du groupe de Oujda, d'ailleurs, qui s'accapare du pouvoir. Il sème, justement, plein de petits problèmes de division, etc. Et puis, il évolue dans sa description jusqu'à aujourd'hui, où il dit, il espère que ses enfants ont atteint une certaine maturité et qui n'auront plus à quitter leur pays, qu'ils persisteront
après,
dedans.
Après, ils se retrouvent tous haraga.
Il en parle. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, avec le harak, mes enfants, ils ont grandi quelque part. Ils vont pas ichaloudar. Ils vont plus quitter la maison.
Voilà, oui, moi, je reviens au groupe d'Oujda parce que je vois, vous n'avez pas compris. C'est là qu'on voit l'histoire de l'Algérie n'est pas gouvernée par ses enfants. Ce groupe d'Oujda, c'est une armée qui est préparée, je ne sais pas par qui. Je pense qu'il y a même dans les frontières, donc il est subventionné par certains pays et tout. Ils sont rentrés en Algérie, ils n'ont pas fait la révolution algérienne, ils n'ont pas fait de... Donc ils sont rentrés, ils ont fait un coup d'État, ils ont pris le pouvoir. Et depuis 62 à ce jour, c'est eux qui sont au pouvoir sur le fauteuil de Mouradia. Donc voilà le vrai problème. Donc l'Algérie n'est pas gouvernée par ses enfants.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. On écoute le morceau, on se retrouve juste après.
وستين شريط دار في أجنان بلا الأسوار نسقي بدم الأحرار دار من الفرحة نسبدات تولول قلت نبنيها من الأول شهد ربي كنت مول دار داري والدار داري قدام الجنان عندي بحرة مر داري عندي صحراء في وسطها الجبال دايرة والدار داري عندي فيها من كل خير كي نعطش نشرب من البير الناس كي تشوفني فيها تغير والدار داري دار داري دار داري
قلت نبداها بالجاردينة نغرسها نرجع حزينة نغرس وريدة وياسمينة والدار داري بديت بكري في الصبحية قلت نديرها زراعية تلفت لي بالعربية والدار داري دار داري
فوا
موتنا يا ما تملح مجناني نقطف في التفاح في الطبلة نتقسموا الفرح والدار داري عشنا بقدر روح رمى عيلة كبيرة ملمومة عطونا ماكلة مسمومة والدار داري دار داري دار داري
الخواب داوي نوضو حبوا رايهم يفرضوا في داري طفوا الضو والدار داري طهوا عليا بالقزول ولادي عم بالهم جلغول كي شافوا خوهم مقتول والدار داري والدار داري
حرام من داك جاني خدام جرفت في يدو حمام ابدا هادي بالسلام والدار داري قالي خوك هذا اسمح له بابك لازم تفتح له شويه من الرزق اكتب له دار داري دار داري دار داري
قالي نعاود لك الاسوار قيمتها شويه دينار قريب ريب ريقاع الدار الدار داري جاب حبابو في لما هلكوني وخلوني تما انا ولادي في غمة دار داري دار داري
قتلوا لي ولادي بالجوع والخير عندي من كل نوع ليهم حلال ليا ممنوع دار داري على جلهم ولدي هرب عند الجيران تغرب البحر والموجة تضرب دار داري دار داري دار داري
مرضي كبير ما يدوى ولادي كانوا خوا خوا غرسوا فيهم العداوة والدار داري قسمونا كل واحد في بيت لي دارها والله خبيت ضرحت فيك للزيت دار داري دار داري
ولادي بداو الحركة قالوا يتنحوا قاع بالضحكة تحت الدار البركة والدار داري دخلوا لهم شرخة اسم الدقة حبوا يفسدوا العلاقة نصهم خاين نص سرقة والدار داري دار داري والدار داري
اليوم جابوني برا كثرت الحسد والحجرة في داري صرا ما صرا والدار داري إن شاء الله نرجع كشنها ولادي فاقوا رجعوا كبار واحد ما يخرجهم الدار دار داري دار داري دار داري
On est toujours dans Micro-Ondes sur Radio Campus 90.8. On parle de l'Algérie avec nos trois invités, Yahya, Hassan et Rim. Et bon, c'est déjà la fin de l'émission, ça arrive très très vite. Et je voulais quand même vous poser la question. Donc voilà, ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses. Des personnes ont été arrêtées, puis ensuite libération ou annonce de libération, je ne sais pas où ça en est exactement, si tout le monde a été libéré, de prisonniers politiques, alors que même que le gouvernement algérien niait l'existence de prisonniers politiques il n'y a encore pas si longtemps. Ouais. Différentes annonces, le pouvoir a l'air de vouloir céder la place, le président Tebboune, un peu il faut laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce que ça va créer ? Qu'est-ce que le mouvement il va faire quoi de tout ça et...
Alors, et effectivement, moi je pense que vraiment, le pouvoir, il est complètement désaxé. Et donc, et en fait, ils sont vraiment acculés par la pression populaire. Ils ont compris par la démonstration de Harata qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'insurrection et de la révolution et que ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a une rupture, mais radicale, entre aujourd'hui, si le peuple... dans son hétérogénéité, qui est réfléchie sur l'avenir de l'Algérie et pas le pouvoir en place. Donc ils ont compris qu'ils ne peuvent pas composer, à moins qu'ils veulent gouverner sans le peuple. Et ça, c'est, ils l'ont fait longtemps, ça n'a pas marché. Donc ils sont acculés. Maintenant, en fait, ils n'ont pas d'autre choix, sachant qu'ils sont toujours dans la ruse. C'est-à-dire que la Constitution, comme je l'avais précisé tout à l'heure, renforce les pouvoirs du président, et puis le champ médiatique, il n'est pas ouvert, et puis il essaye un peu de jouer sur en fait, créer des nouvelles clientèles. À mon grand regret, quelques responsables politiques dans un plus vieux parti d'opposition qui le FFS ont participé à ces pseudo-concertations avec le président. Mais aujourd'hui, la force du Hirek, c'est quoi ? C'est que il faut une prise de conscience, que ce soit ici dans l'immigration ou en Algérie, lier cette prise de conscience, hein, et de dépasser nos divergences. Il faut qu'on réfléchisse sur des propositions de restructuration. C'est parce qu'en fait, il n'y a que les forces vives de la société qui peuvent effectivement apporter des solutions, une alternative, mais pas le pouvoir en place. C'est-à-dire de le pousser à dialoguer, mais pour effectivement bâtir
pour nous donner une phase de transition pour qu'on puisse nous prendre le relais.
Exactement. Alors moi, par rapport moi personnellement, je trouve que c'est normal, hein, ça fait partie de l'apprentissage. On a perdu beaucoup de temps, mais il y a eu énormément de tentatives de construire quelque chose. C'est-à-dire, comment réussir cette transition démocratique ? Et bien évidemment, les Algériens ne sont pas tous homogènes. Comme disait Hassan tout à l'heure, il y a des croyants, des non-croyants, des musulmans, des chrétiens, des arabophones, des francophones, des grands, des petits, des noirs, des blancs, des gens. C'est ça l'Algérie aussi dans sa diversité. Cette pluralité linguistique, il faut qu'elle soit vraiment une richesse. Et donc, comment la capitaliser ? Même si j'aime pas trop le mot, comment capitaliser effectivement toute cette richesse-là ? Il y a eu plusieurs tentatives. Si je peux citer juste les tentatives qu'il y a eu ici dans l'immigration, mais pas que, en Algérie aussi, il y avait énormément de tentatives dans ce sens-là. Nous, dans l'immigration, par exemple, la première coordination des différents collectifs à Grenoble, on s'est mis d'accord sur quelques points. Je pense aujourd'hui, le Khawa Khawa, qui était un peu Silmiya Khawa Khawa, c'était très bien à un moment donné.
Traduit.
Mais le Khawa Khawa, c'est-à-dire nous sommes tous des frères et des sœurs, donc on va. Il faut complètement le dépasser et d'affronter nos divergences. Il faut vous savez, c'est par exemple, si on reste un peu très superficiel là-dessus, on ne va pas avancer. Et le pouvoir, il joue sur cette fragilité-là. Donc aujourd'hui, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'à mon sens, il faut une charte, je dirais de 10 points ou de 15 points. Cette charte-là, il faut qu'effectivement, elle précise différents points concernant notamment sur les préalables universels de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels on ne peut pas spéculer. Par exemple, l'égalité homme-femme. Ça, c'est un point très, très important. C'est-à-dire, et on ne peut pas spéculer là-dessus. D'ailleurs, inhérent à la lutte féministe, par exemple, à la lutte des femmes, certains disaient à l'époque, les carrés féministes à Alger, c'était pas le moment. Bien sûr que c'est le moment. Et deuxième élément, la séparation des pouvoirs. La séparation du pouvoir, c'est-à-dire séparer le pouvoir religieux du pouvoir politique. Et même, on peut certains, ça ne va pas. Moi, je ne fais pas, en tout cas personnellement, après je vois qu'il reste quelques minutes, après je vous donne la parole, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais il faut qu'on arrête, encore une fois, de cacher le soleil avec un tamis. Le code de la famille, par exemple, en Algérie, opprime la femme. Donc ça, on ne peut pas... dans la coordination, l'une des réunions qu'on a faites à Marseille, certains, sur l'égalité du genre homme-femme, ils disent citoyen-citoyenne pour ne pas prononcer homme-femme. Faut qu'on arrête, quoi, avec ça. C'est pas, on va parler homme-femme, de question du genre. Elle est très, très importante. La séparation de pouvoir, l'indépendance de la justice. Comment on peut, avec une telle constitution, parler de l'indépendance de la justice ? Le président le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président, il a désigné 6 membres, donc il y a une confusion entre le pouvoir législatif, c'est une tchouk-tchouka, quoi. Une tchouk-tchouka, je ne sais pas si tu connais la tchouk-tchouka. C'est très bon, mais en politique, ce n'est pas bon.
Du tout, dans l'assiette.
Donc, tu vois, une grosse... Et donc, avec ça, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Et c'est pour cela que c'est à nous, effectivement, de confronter nos divergences et d'avancer. Ça ne va pas être facile. Hein. Vous savez, une révolution, c'est très, très long. Et on peut citer l'exemple... il y a une autre aberration que j'aimerais bien d'ailleurs citer dans cette constitution. En fait, le chef des armées est ministre de la Défense, c'est le président. Donc, il est.
Et puis, il s'est donné le droit de d'envoyer des troupes militaires là où il veut, sans qu'il ait une concertation avec le Parlement.
Voilà.
Donc, en gros,
voilà.
S'il y a quelqu'un qui veut.
Et c'est pas par hasard, effectivement.
Mais bien sûr, on sait tous.
Macron, il dit que c'est, je ferai tout pour Tebboune. C'est
tout
pas
à
par
fait,
hasard.
C'est le Mali. Il y a plein de choses dedans. Je sais.
Donc peut-être.
En fait, il était roi. Il est devenu empereur avec la nouvelle constitution.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer, c'est que maintenant, au boulot. Mais je dis les choses comme ça, que ce soit dans l'immigration. Et il est temps que... je vais citer cette anecdote. Une camarade tunisienne, elle m'a dit, quand il y avait la révolution tunisienne, elle m'a dit, tu sais, Yahya, moi, nous, les Tunisiens, quand on n'est pas d'accord, on reste jusqu'au point où on trouve la solution pour le problème. Il dit, mais vous, les Algériens, ce que j'ai remarqué, dès qu'on n'est pas d'accord, l'autre, il s'énerve, il dîne, machin, il va. Et le problème n'est pas résolu. Donc cet apprentissage-là, il faut qu'on a... Maintenant, je pense, au bout de 2 ans, on arrive quand même à se parler. C'est déjà pas mal. Après, on va avancer. On va se mettre d'accord. Et moi, je suis optimiste. Voilà.
Moi aussi.
Je ne sais pas si je suis optimiste ou pas, parce que les manœuvres du pouvoir, elles sont toujours dangereuses. Donc là, on voit la veille de l'anniversaire du Hirak, il a fait ses manœuvres, libérer les détenus, les journalistes, etc. etc. Il a fait son buzz. Et puis, dissoudre l'Assemblée populaire. Et ça, c'est très, très, très dangereux par rapport au Hirak, parce qu'il peut tuer le Hirak avec ses dernières élections, parce qu'il reste les élections municipales et les élections pour la PN législative. Donc lui, il veut se renforcer, donc il veut construire son fauteuil. Mmh. Et là, il est en train de travailler avec les partis islamiques, parce que le pouvoir algérien, c'est lui qui a créé les islamistes, il les utilise quand il veut, il les sort, il les garde, c'est sa troupe. Il fait comme il veut. Et il faut que les Algériens sachent aujourd'hui que le pouvoir et les islamistes, ils sont dans le même bain. Aujourd'hui, les contacts qu'il a fait, les 5 partis politiques algériens avec qui il a négocié, c'est les partis islamiques, plus malheureusement le parti du FFS. Mais le FFS, depuis le monde des mondes, il est toujours en contact avec le pouvoir, il est toujours en négociation, etc. Et donc, il faut qu'on fasse vraiment attention.
Il y a une autre, Hassan, pardon, je te coupe. Il y a une autre composante qui risque aussi d'aggraver la situation, c'est la crise économique qui arrive.
Oui, oui.
Ça, par contre, ça risque d'aggraver les choses et que les choses dégénèrent. Jusqu'à présent, on a pu maintenir une révolution exemplaire, parce qu'on était pacifique, etc. Là, ça se complique et c'est là où j'ai réellement peur aussi.
Oui, donc après, il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, même au niveau des collectifs, le moula khawa khawa, frère, il faut qu'on arrête, il faut qu'on voit les choses réellement aujourd'hui. On est tous responsables. Et aujourd'hui, chacun va montrer sa couleur. On ne peut pas, moi personnellement, je ne peux pas travailler avec une personne qui a tué 250 000 morts. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on pense à ses familles. C'est à eux, c'est ces familles-là, il faut qu'on voit avec eux avant de se tenir. Un gars qui a tué, un islamiste, ils ont amnisté tous les islamistes et maintenant ils travaillent avec eux. Ça, c'est très dangereux. Donc après, le pouvoir, il n'est pas bête. Ils sont en train de faire un autre travail. Et s'ils arrivent après nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va oublier un peu le mouvement-là, on va oublier nos chartes, on va oublier tous les trucs démocratiques. On va discuter entre nous pour faire barrage aux élections, pour boycotter les élections, comme d'habitude. Mais eux, ils passent. Et ils ne s'arrêtent pas à leur train. Donc voilà. Et donc, je pense qu'on est vers la fin. Donc, nous, à Grenoble, donc, on a un rassemblement au consulat d'Algérie le 22 février.
Lundi prochain.
Lundi, de 15h à 17h. J'espère qu'on va avoir beaucoup de monde, parce que c'est une initiative pour le Hirak, pour les fermetures des frontières, parce qu'on a des vieux qui sont morts là, c'est un massacre. S'il y a le seul pays qui n'a pas ouvert ses frontières, c'est l'Algérie, malheureusement. Voilà. Donc, et puis, on vous remercie. Donc, moi, je vous remercie par rapport à votre invitation. C'est sympa et c'est gentil de votre part. Merci bien.
Merci à vous. Il y avait beaucoup à dire. On pourrait encore dire plein de choses. Oui. C'était passionnant. Et si des personnes veulent suivre un peu les actions de votre collectif, voire vous rejoindre, est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter?
On a une page Facebook, la communauté algérienne de Grenoble, sur Facebook. Donc vous allez avoir tous les événements qu'on fait. Généralement, on les publie 10 à 15 jours en avance. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va se quitter avec Samia qui nous fait un court agenda. Et ensuite, on écoutera le dernier morceau que vous avez choisi. Est-ce que vous voulez bien en parler ?
Très rapidement, c'est un rappeur algérien, Farid Diaz. La chanson s'intitule « Civil Fblad Laskar ». Je pense qu'on comprend, hein, avec les créoles algérois. « Civil Fblad Laskar », voilà.
Très bien, bah, merci beaucoup. Bon week-end.
Merci.
On espère vous retrouver bientôt sur notre émission. N'hésitez pas à nous recontacter. On sera ravis de vous repasser la parole.
Merci beaucoup.
Et à très vite. On se retrouve au mois de mars pour une nouvelle émission de micro-ondes le samedi 6 mars de 13h à 14h. Et à très vite. Que la lutte continue en Algérie et ailleurs.
Merci.
Je te passe la parole, Samia.
Eh bien, merci. Alors, du coup, bonjour. du coup, en termes d'agenda, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Alors, juste, il y a un rassemblement, une manif le 26 février à midi devant la CCI de Grenoble. C'est pas loin de Chavant. Et c'est un rassemblement pour la gratuité des transports en commun. La pauvreté et la précarité explosent. Imposons la gratuité des transports publics maintenant. Refusant les réductions annoncées du service public de transport, des moyens, il y en a. Face au dérèglement climatique et sanitaire, changeons radicalement de modèle de transport. Bon voilà, il n'y a pas grand-chose en termes d'actualité, à part ce qu'on avait déjà évoqué. Mais sinon, sachez que les lieux comme la BAF ou alors Antigone ou alors plein de lieux comme ça, continuent à avoir des permanences où vous pouvez aller. Par exemple, des permanences pour la bibliothèque à la BAF. Ou alors pour l'aide informatique aussi, certains mardis. Et sinon, plein de bibliothèques, plein de trucs. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Alors du coup, on vous incite à continuer à aller voir les sites tels que le-tami.info ou encore cric-grenoble.info, ici Grenoble, ou encore Démosphère Grenoble, Isère, pardon. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller faire des tours sur ces sites internet. Ils seront mis à jour régulièrement pour savoir l'actu. Et puis... voilà. Et puis du coup, au revoir et on se quitte avec la musique.
Naïfop marasta, musique ou basta, mundir maha indo. الواسطة شحمل نارك ماسكا من الوقت لحسن بالباسكال أصدرك هاشتاك سيبين في بلاد العسكر أصدرك هاشتاك سيبين في بلاد العسكر وعلاش كش مبقى صبر صبرنا وعضينا الكيلة كيفاش ما تدورش على خوكي شبعك كتبهديلة يوضح لقدرك واحد ما قدر ليش تقدرو من ما قدرناش شدو لقدر يملا قولي واش نقدرو غير اللي نفخ صدرو معمر غير بالنفس ولي حابين يجاهدو غريب دو بالنفس زمان صعب خو صعب تيبي تنش قلت هالله في روحك حددها كي تتكمش زمان ما يردو جاب اليوم ما يرضي يقضي الشي ما يمدو وجا وحدو ما يقضي انا الشعبي ما راني غدو والراب مولا غدي شوف الانسى غد شبعك كفلو انا معايا تشبع قدي زمان ما يرضو جاب اليوم ما يرضي يقضي الشي ما يمدو وجا وحدو ما يقضي انا الشعبي ما راني غدو والراب مولا غدي اللي جعل مدغول ويقول لك رحاني قوتنا منه بالغول حكم فينا روحاني واحد ما مسؤول غير تشوف العيناني غير تحل امك هاكول رجعونا قاع جيعانين غير تحل امك هاكول رجعونا قاع جيعانين مهبول اللي غدر يقول هذا ما بلبل لي هبلو غرب المعقول قبل يجيك من اللي قبلو استغلاح شد في حبلو خليهم يطبلو لك اللي قبلو يشطحو ما حبوش يرمو المحارم زمان ما يردو جا
شي مي من دوم وجا وحدو ما يقضيل عن الشعبي ما راني قدوم والراب مولا قديش كل مساء غرش بعك فلو أنا معايا تشبع قديد زمان ما يردو اليوم ما يردي يقض الشي مي من دوم وجا وحدو ما يقضيل عن الشعبي ما راني قدوم والراب مولا قديش كل مساء غرش بعك فلو أنا معايا تشبع قديد